Audiolib présente Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, lu par Michel Rimbaud. En hommage à Jigme Khyentse Rinpoché, à ma sœur Ève, qui a su extraire le bonheur de l'adversité, et à tous ceux et celles qui ont inspiré les idées de ce livre. Le bonheur n'arrive pas automatiquement. Ce n'est pas une grâce qu'un sort heureux peut répandre sur nous et qu'un revers de fortune peut nous enlever. Il dépend de nous seuls. On ne devient pas heureux en une nuit, mais au prix d'un travail patient, poursuivi de jour en jour. Le bonheur se construit, ce qui exige de la peine et du temps. Pour devenir heureux, c'est soi-même qu'il faut savoir changer. Luca et Francesco Cavalli Sforza. Chapitre 1. Vous avez dit bonheur. Tout homme veut être heureux, mais pour parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce que c'est que le bonheur. Jean-Jacques Rousseau. Une amie américaine devenue une grande éditrice de photographies me racontait qu'après avoir passé leurs examens de fin d'études, elle-même et un groupe de camarades s'interrogèrent sur ce qu'elle désirait faire dans l'existence. Lorsqu'elle déclara « Je souhaite être heureuse », il y eut un silence gêné, puis l'une de ses compagnes s'exclama « Quoi, comment quelqu'un d'aussi brillant que toi peut-il n'avoir d'autre ambition que d'être heureuse ?» Ce à quoi mon ami rétorqua « Je ne vous ai pas dit comment je voulais être heureuse. Il y a tant de façons d'accéder au bonheur, fonder une famille, avoir des enfants, faire carrière, vivre des aventures, aider les autres, trouver la sérénité en soi. Quelle que soit l'activité que je choisisse, j'attends de l'existence un bonheur véritable. » Pour le Dalaï Lama, le bonheur est le but de l'existence. L'essayiste Pascal Bruckner affirme quant à lui « Le bonheur ne m'intéresse pas. » Comment est-il possible d'avoir deux visions à ce point opposé de ce qui, pour la majorité d'entre nous, est une composante fondamentale de l'existence? Ces deux personnes parlent-elles de la même chose? Ne s'agirait-il pas d'un profond malentendu à propos de la définition même du bonheur? Ce mot aurait-il été tellement galvaudé que, dégoûté par toutes les illusions et les mièvreries qu'il inspire, on s'en serait détourné? Pour certains, il est presque de mauvais goût de parler de recherche du bonheur. Revêtu d'une carapace de suffisance intellectuelle, il s'engauche comme d'un roman à l'eau de rose. Comment a-t-on pu en arriver à une telle dévaluation? Serait-ce dû à l'aspect factice du bonheur que nous proposent les médias et les paradis artificiels? Est-ce le signe de l'échec des moyens malhabiles mis en œuvre en vue d'atteindre un bonheur véritable? Nous faut-il pactiser avec l'angoisse plutôt que de faire un effort sincère et perspicace pour démêler les chevaux du bonheur et de la souffrance? Selon Henri Bergson, on désigne par bonheur quelque chose de complexe et de confus, un de ces concepts que l'humanité a voulu laisser dans le vague pour que chacun le détermine à sa manière. D'un point de vue pratique, laisser la compréhension du bonheur dans le vague ne serait pas trop grave si l'on parlait au plus d'un sentiment fugace et sans conséquence. Mais il en va tout autrement, puisqu'il s'agit d'une manière d'être qui détermine la qualité de chaque instant de notre vie. Mais qu'est-ce que le bonheur? Une étonnante variété. Les sociologues, nous en reparlerons, définissent le bonheur comme le degré selon lequel une personne évalue positivement la qualité de sa vie dans son ensemble. En d'autres termes, le bonheur exprime à quel point une personne aime la vie qu'elle mène. Tout dépend bien sûr si « aimer la vie » se réfère à une satisfaction profonde ou se réduit à une simple appréciation des conditions extérieures dans lesquelles se déroule notre existence. Pour certains, le bonheur ne serait qu'une impression ponctuelle, fugitive, dont l'intensité et la durée varient avec la disponibilité des biens qui le rendent possible. Un bonheur insaisissable, donc,